Alors, gloire à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa, cette journée qu'il a faite. Vous savez, dans Psaume 118, qui s'est écrit, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Chaque jour est comme un ouvrage de Dieu. Pour nous, c'est, nous regardons les choses comme un temps. Une journée, c'est un temps. Mais pour Dieu, une journée, c'est une œuvre. Parce qu'il s'est dit, c'est la journée que le Seigneur a faite. Voilà, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est un cadeau de Dieu. Donc, c'est très bien de la vivre avec Dieu. Et cette opportunité de partager sa parole, ça nous fait du bien. Parce qu'il va nous parler et il va nous donner la joie, la paix, pour continuer la course jusqu'à son retour. Donc, nous lisons dans Jean 19, 30. Pour commencer, Jean 19, 30.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.
Donc Jésus, lorsqu'il prend le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et en anglais, c'est « It's finished ». C'est fini. Donc en quelque sorte, il a dit « C'est fini ». J'ai tout fait. J'ai fini ce que j'avais à faire. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire? Il avait à venir en agneau et se laisser crucifier, s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés. Parce que le péché, les péchés, c'est le grand problème de l'homme. C'est le véritable problème de l'humanité. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas l'écologie. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché qu'a commis notre ancêtre Adam, qui a fait entrer toutes sortes de souffrances que nous vivons aujourd'hui et qui a multiplié aussi les actes de péché. Parce que notre nature s'est corrompue. À partir du moment où la nature s'est corrompue, elle produit toutes sortes de péchés. Et ça va toujours croissant dans la gravité. Et quand Jésus dit « Tout est accompli », il veut dire « Je fais ce qu'il fallait pour le pardon des péchés des humains, mais pas que cela, pour la crucifixion de la chair, mais pas que cela, pour enlever la malédiction qui est liée au péché. » Dieu avait dit « Le jour où tu pécheras, tu mourras. » Donc Jésus-Christ à la croix, il enlève cette malédiction, c'est pourquoi il dit « Tous ceux qui croient en lui, ils vivront, même s'ils meurent, et ceux qui croient en lui en vivant ne mourront jamais. » À la croix, Jésus-Christ a dépouillé les démons de toute leur force. C'est écrit dans Colossiens 2. Finalement, à la croix, il a réparé, car c'est ça le plus important, il a réparé la relation entre l'homme et Dieu. L'homme n'a plus à vivre sous la colère de Dieu. Quand il croit en Jésus, la colère de Dieu a été supportée par Jésus à sa place, en étant frappé à la croix. C'est pourquoi Jésus dit « Tout est accompli !» Et il meurt de suite. Tout est accompli. Mon sang a coulé, les péchés sont pardonnés. Désormais, c'est réparé entre Dieu et l'homme. C'est réparé. Ça peut refonctionner à nouveau. L'interruption que le péché a produite est brisée. C'est fini. Ça a été recollé entre l'homme et Dieu. Ce qui nous pousse à revenir à l'époque avant le péché, puisque lui, il répare le fossé, il comble le fossé. Donc, ce qui était avant peut recoller à ce qui était après. Maintenant, qu'est-ce qui était avant? Nous connaissons tous l'histoire. On ne va pas relire. Dans Genèse, c'est écrit que Dieu a fait les cieux et la terre en 6 jours. Et après avoir tout fait, il y a une dernière créature que Dieu fait, c'est qui? Qui vient en dernier parmi les réalisations de Dieu? C'est l'homme. De sorte que quand l'homme vient au monde, il trouve déjà que tout est fait pour lui. Et il reçoit l'instruction de gérer tout ce qui a été fait pour lui. Tout simplement. Alors si Dieu, si Jésus a réparé la relation entre l'homme et Dieu, désormais, Dieu va fonctionner encore de la même manière. C'est-à-dire qu'il va faire pour l'homme et l'homme a à gérer selon les instructions de Dieu puisque c'est ce qui était avant. L'homme avait, Dieu avait tout fait et il produit ainsi après l'homme et lui dit maintenant tu gères, tu donnes les noms aux animaux, tu domines sur les poissons, tu fais ceci, tu fais cela. Mais l'homme n'avait pas à produire quelque chose puisqu'il a trouvé les choses. Maintenant que Jésus vient réparer le fossé créé par le péché, ce fossé-là a entraîné le fait que chacun suivait maintenant sa propre voie, sans que ce soit forcément, sans que ce soit Dieu qui pilote d'une manière directe la vie de chacun, même si d'une manière indirecte, il veille sur tout, il contrôle tout, mais d'une manière directe, non. Chacun suivait sa propre voie. Maintenant, quand Dieu et quand Jésus répare le problème, qu'est-ce qui se passe? Désormais, c'est Dieu qui pilote les voies de ceux qui croient en Jésus. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Éphésiens 2, 8 à 10. On va lire dans Éphésiens 2, 8 à 10. Puisqu'on a dit dans Genèse, Dieu avait tout créé et l'homme est venu vivre cela. L'homme n'avait pas à créer ni à produire quoi que ce soit, mais à gérer ce qui a été fait pour lui. Mais le péché est venu tout détruire. Le péché a créé la maladie. Le péché a créé les divorces, la séparation, les guerres, les tremblements de terre. Le péché a produit tout ça. Le péché a produit la jalousie. Tout ça est venu gâcher le fonctionnement parfait qu'il y avait avant, qui faisait que l'homme n'avait qu'à jouir de ce que Dieu faisait pour lui et qu'il avait fait pour lui. Le péché ayant gâché tout ça, l'homme ne vivait plus heureux. Tout le temps dans les problèmes, la tristesse, la mélancolie, la haine, la colère. Et en même temps, surtout, la colère de Dieu sur lui à cause du péché, parce que Dieu n'aime pas le péché. Et donc la colère de Dieu était sur l'homme. Et c'est un poids terrible, la colère de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux, mais que notre être sent inconsciemment, nous sentons la colère de Dieu. C'est ce qui fait que les gens fuient Dieu. Parce qu'inconsciemment, ils sentent la colère de Dieu. Alors, ils préfèrent dire qu'il n'existe pas. Vous savez, comme Adam. Adam s'est caché quand il s'est retrouvé. Il a réalisé qu'il avait péché, qu'il était nu. Il s'est caché. Donc, tu veux faire comme si Dieu n'existe pas pour fuir la colère de Dieu. Mais ça ne marche pas. Dieu est tout puissant. Il est partout. Il est omniprésent. Et quand Jésus-Christ vient réparer tout ça, ça va produire quoi? Ça va produire qu'à nouveau, Dieu prend le destin de l'homme entre ses mains. Le destin de l'homme qui croit en lui, qui se confie en lui, entre ses mains. Et nous lisons Éphésiens 2, 8 à 10.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Amen. Donc, premièrement, nous sommes sauvés par le tout est accompli là. Ça nous sauve. On est sauvés, c'est fini. La colère de Dieu ne demeure plus sur nous. On est sauvés, nos péchés sont effacés. On est sauvés, on est vivants, jamais nous recevons la vie éternelle. On est sauvés, désormais par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. On est sauvés. Mais ensuite, Le frère Paul nous dit quoi? Nous sommes créés aussi de nouveau. C'est ce que Jésus lui-même dit dans Jean 3. Le frère Paul nous le dit aussi dans 2 Corinthiens 5. Vous êtes de nouvelles créations. Mais maintenant, Paul nous replace au temps de Genèse où nous avions tout trouvé. Et lui, il dit quoi? On peut relire ça. Ephésiens 2, 9 à 10.
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Même chose que dans la Genèse. Maintenant que nous sommes créés, notre salut est une nouvelle création. Nous sommes de nouvelles personnes créées en Jésus pour pratiquer de bonnes œuvres. Préparé d'avance, comme dans Genèse, tout a été créé d'avance et Adam est venu après. En Christ aussi, les œuvres sont préparées d'avance, les exploits des chrétiens sont préparés d'avance, leur parcours est préparé d'avance. Et puis il y a d'autres passages qui en parlent, on ne va pas traîner là-dessus, mais je veux juste faire la relation entre le Nouveau Testament, ce que dit le salut et ce que dit la Genèse, c'est que l'œuvre de la croix, le tout est accompli, il comble le fossé. Désormais, nous sommes créés à nouveau pour d'autres œuvres. Ce n'est pas comme au début où il y avait les arbres, les poissons qui avaient été créés pour nous avant. Là, maintenant, c'est des œuvres différentes, spirituelles. Le parcours est préparé d'avance pour ceux qui sont sauvés. Voilà, quand tu es sauvé, il y a un parcours qui est là pour toi. Il y a une des œuvres spirituelles qui sont préparées pour toi. Il y a un ensemble de choses que tu dois accomplir qui sont préparées à l'avance. Donc, même logique que la Genèse, comprenons bien. Mais donc, quand Jésus dit tout est accompli, il estime que c'est fini. L'homme peut vivre à nouveau la bénédiction divine, la paix de Dieu, le plan de Dieu, tout simplement, qui a tout fait à l'avance en Genèse, en Christ aussi. Il fait tout à l'avance. Nous n'avons que besoin de quoi? Comme dans Genèse, de suivre les instructions de Dieu pour la gestion de ce qu'il a déjà préparé en avance. Donc le travail du chrétien, c'est la prière et la foi. Prière, foi, lecture de la parole pour suivre les instructions de Dieu et gérer le parcours de Dieu pour lui, gérer l'avenir de Dieu pour lui, gérer les œuvres préparées d'avance. Mais tout est fait. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli, bien-aimé. Ce n'est pas nous qui allons sauver l'humanité. Jésus a sauvé l'humanité à la croix. Il a dit, c'est fini. Tout est accompli. Là où le français est plus intéressant, dans le « tout est accompli » plutôt que « c'est fini », « tout est accompli », ça veut dire que tout ce qu'il fallait être fait est fait. Donc, nous, quand nous faisons les choses, nous obéissons aux instructions de ce « tout est accompli », là, nous sommes dedans. Voyez pourquoi, bien-aimés, nous pouvons vraiment nous réjouir. Imaginez la joie que tu auras d'arriver quelque part où toutes les maisons sont déjà faites, les routes sont déjà faites, tout est fait pour toi, cuisine, tout est fait. Mais on te demande juste de gérer. C'est ce qui est arrivé à Adam. Quelle joie! Mais Adam n'a pas eu la même joie que nous, puisque Adam, avant, n'était pas perdu. Mais nous, on a une joie ineffable. Alors qu'avant, nous suivions chacun notre propre voie, nous nous retrouvons sauvés pour accomplir des œuvres préparées d'avance pour nous. Et ça, beaucoup de gens ont du mal avec cela. Ils ne réalisent pas la grandeur du salut de Dieu. Ils ne réalisent pas. Au fait, on croit que le salut, c'est un ticket pour le ciel. Après, chacun encore se débrouille à nouveau. Non! C'est un ticket pour le ciel et tout un ensemble, c'est pas le ticket pour le ciel n'est qu'un paramètre. Le salut, c'est le fait que tu es réconcilié avec ton papa et à nouveau, C'est lui qui s'occupe de toi pour te donner la vie éternelle. Et il t'a préparé des œuvres pour que tu les appliques comme exactement il avait fait pour Adam. Exactement. Les choses reviennent à nouveau. Le fossé est comblé. Tout est accompli. C'est fini. Et on voit comment les gens se sont divisés. Les gens se sont battus entre eux. Les chrétiens se sont battus entre eux pour sauver des âmes, pour faire le travail de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas que tout est accompli. Ce n'est pas eux, ce n'est pas nous qui allons sauver. Nous, on va faire notre part. Christ a tout accompli à la croix. Mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Christ a tout accompli. Comme serait la bonne nouvelle pour à la place d'Adam, tu arrives, tout est fait pour toi, les poissons, tout est fait, les animaux, tout est fait pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. Christ a tout accompli. Je n'ai pas à m'inventer mon parcours. J'ai tout simplement à prier pour être à l'écoute de mon Père en ce qui concerne la gestion de ce qu'il a déjà préparé pour moi à l'avance. De sorte que quand les choses négatives arrivent, je ne suis point déstabilisé. Les choses ont été préparées pour moi d'avance. Je sais que dans ces choses négatives se trouve un chemin, le chemin que Dieu a préparé pour moi d'avance. Les œuvres préparées d'avance. Tout est accompli, bien-aimé, c'est cela. Et ce qui nous est demandé, c'est la prière. C'est la foi. Gardez la foi en ce que Christ a déjà fait. C'est quand on perd cette foi-là qu'on est déstabilisé. Les mauvaises nouvelles te déstabilisent. Alors qu'il suffit que tu reviennes à la parole, tu dis, mais non, je suis dans la parole. Je demeure dans la parole. Donc forcément, ce qui m'arrive, c'est ça a été préparé d'avance pour moi. C'est quand tu sors de la parole qu'il y a un problème. Vous savez, bien-aimé, le tout est accompli, c'est comment? C'est comme quand tu montes dans un train. La destination du train est déjà fixée. C'est si toi, tu descends lors d'un arrêt, c'est toi qui sors du chemin du train. C'est toi qui sors de l'objectif. Et tu vas errer, tu vas traîner. C'est ce qui s'était passé avec le péché. Le péché nous a fait sortir du train de Dieu. Et Jésus nous y a remis. Mais dans un nouveau train en plus, avec des œuvres nouvelles. Qu'est-ce qu'on demande aux chrétiens? Reste dans le train. Reste dans le train. Rester dans le train comment? Eh bien, en gardant la foi, que Dieu a raison, sa parole est la vérité. C'est pourquoi notre thème de ce matin, c'est « Tout est accompli, gardons la foi ». Notre part à nous, c'est de garder la foi. Que Dieu s'occupe. Moi, je me suis confié en lui par Jésus. Maintenant, ma vie est entre ses mains. Il s'occupe. Bien-aimé, il ne faut pas comprendre ça quand nous sommes au ciel. C'est aujourd'hui que tu dois comprendre ça pour vivre le reste de ta vie dans la joie. C'est maintenant que tu dois comprendre ça. Que tout est accompli, ça veut dire que désormais, ta vie est prise en charge par Dieu. Et les événements négatifs, tant que toi, tu as foi en Dieu, tant que toi, tu demeures dans la parole de Dieu, tant que toi, tu demeures dans la vérité, les événements négatifs sont pour toi, c'est une bénédiction. Le problème, c'est toi. Es-tu toujours dans le train? Tant que tu es dans le train, c'est-à-dire, tu considères que la parole de Dieu est vraie. Tu pries pour être instruit par le Saint-Esprit pour comment gérer les choses de Dieu. Tu as foi que Dieu gère ta vie. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour accomplir la parole de Dieu. Tu vis dans la louange. Bien-aimé, tant que tu demeures ainsi, tout ce qui t'arrive est une bénédiction. Parce que ta vie, tu es toujours dans le train. Du moment que tu es dans le train, ta vie est gérée par le Seigneur. Et tu n'as plus à t'inquiéter. Tout a été préparé d'avance pour que tu vives la gloire de Dieu. Joseph l'a compris à la fin. Il a dit à ses frères, « Mes malheurs sont une préparation de Dieu. C'est un travail de Dieu pour que je vous sauve. Je le sais maintenant. C'était pour vous sauver et sauver un peuple nombreux et tout l'Égypte. » Nous allons lire Jean 15 pour lire notre part. Jean 15, je crois à partir du verset 4, je crois. Jusqu'au verset 11.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
Le but, c'est quoi? Au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le but, c'est quoi de tout ce discours de Jésus? C'est de te dire que tant que tu es en lui, le reste se fera naturellement. Toi, tu dois rester dans le train. Tant que tu es dedans, tu atteindras l'objectif. Il dit, la finalité, c'est quoi? Ainsi, tu as tout le temps la joie. Parce que tu sais que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans les œuvres préparées d'avance. Du coup, malheur ou pas malheur, tu es toujours dans la joie. Parce que tu as conscience que celui qui te porte, le train qui t'amène, t'amène au but à coup sûr, t'amène au bon endroit. Tu as la joie. Tu es bien. Tu sais que le train qui t'amène assure une protection infaillible. Tu es tout le temps dans la joie, bien-aimé. Tu es en train d'aller avec celui qui a créé toutes choses. Tu es dans son train. Lui te dit tout simplement, demeure. Donc nous allons relire à partir du verset 4.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Voilà. Il nous donne deux informations. Il est comme le tronc, nous ne sommes comme des branches. Il dit, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Une image, parce qu'il y a plusieurs images de tout ce que nous disons là. Une image, c'est qu'il est le tronc. Et nous sommes les branches. Il dit, mais il faut rester attaché à moi, demeurer en moi et que je demeure en vous. Mais comment le tronc va entrer dans les branches? Vous savez, c'est ça. Mais donc, parce que Jésus est en même temps par son esprit, la sève qui passe par le tronc pour entrer dans les branches. Pourquoi il dit, moi que je demeure en vous? C'est-à-dire que lui, il entre dans les branches à travers la sève. Il dit, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Et il nous donne un autre renseignement et enseignement, c'est que les branches ne produisent pas les fruits. Elles les portent. Ne cherchez pas, ne pensez pas que c'est vous qui produisez. Vous ne faites que porter. Tout ce qu'il vous faut, c'est demeurer en moi et vous emporterez. Puisque c'est moi qui les produis. Le problème, c'est demeurer en moi. Mais demeurer en lui, c'est quoi? On lit la suite. On lit ensuite, verset 5.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
C'est clair, bien-aimé, c'est clair. C'est lui qui produit les fruits, mais nous, on les porte. Et il dit clairement, sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est inutile de se faire des projets, de penser. Vous savez, bien-aimé, quand vous lisez ces choses, vous vous dites, désormais, je ne forcerai rien. J'obéirai au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Un point, c'est tout, et Dieu fera sa part. Tu ne te feras plus entraîner dans les pièges des humains. Ah oui, tu es improductif, tu es ceci, tu es cela, tu dis non. Moi, mon devoir à moi, c'est de demeurer en Christ. C'est d'être à son écoute, obéir à ses instructions. Être, voilà, avec lui, obéir à sa parole, garder surtout la foi, parce que c'est la foi qui permet tout cela, tout le reste. Donc, tu as foi qu'il a raison, donc dans ce cas, tu obéis. Et voilà, bien-aimé, on sera dans la joie. Vous savez, le but ultime, c'est le verset 11, pour que vous soyez dans la joie. Tu seras en paix. C'est pourquoi dans Actes 16, Paul était en prison, il a loué le Seigneur. Il a loué Dieu, alors qu'il était dans une mauvaise position. Il a loué le Seigneur, parce qu'il savait que tout est accompli, tout est sous contrôle, tout contribue. Hein, on connaît le fameux verset, non? Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait ça. C'est des gens qui avaient enjambé, ils sont montés dans une autre position spirituelle. Ils ont compris les choses. Nous aussi, on peut monter dans la même position si on comprend ces choses-là. Nous continuons verset 6.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
Voilà, bien-aimés, tous ceux qui s'amusent à négliger la Bible, tous ceux qui s'amusent à négliger le Saint-Esprit, tous ceux qui s'amusent à négliger que nous avons à être soumis à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans les bouches des chrétiens, c'est « je ». Mais parfois, ils disent « j'ai prié le Seigneur ». Alors que parfois, il n'y a qu'à obéir à ce qui est écrit. Hein. Mais ils disent, mais j'ai prié maintenant, mais mon cher, ce que tu dis là, le problème que nous gérons, c'est dans la parole, il faut obéir. Oh, mais j'ai prié, et le Seigneur lui a donné une instruction différente de la parole. Ça me fait même rire, quoi. Voilà, non, il faut demeurer en Christ. Bien-aimé, même si ceux-là qui sortent de la parole, qui sortent de Christ, qui sont dans les jeux, même si ils semblent progresser à vue humaine, en réalité, ils sont dans la voie de l'assèchement. C'est l'assèchement. Il dit clairement, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche. C'est la voie de devenir sec. Tu es sorti du plan de Dieu. Tu vas devenir sec. Et heureusement, certains, quand ils commencent à sentir cette sécheresse-là, ils reviennent vite. Ils disent, non, il y a un problème. Amen, gloire à Dieu. Donc, c'est des vrais enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas des vrais enfants de Dieu, ça finit mal. Bien-aimés, ce qui compte, c'est demeurer en Christ. Que personne ne vous trompe, bien-aimés. La vie des gens comme de Joseph, à un moment donné, ça a été comme un échec. Mais il est demeuré en Dieu. La vie des gens comme les Daniel, ça a été comme un échec. Attention, ils ont demeuré en Dieu. Ils ont à chaque fois vécu la gloire de Dieu. Il faut demeurer en Dieu, demeurer dans sa parole, demeurer dans l'obéissance, ne pas considérer sa vie, ma vie n'est pas ma vie, c'est la vie de Dieu, c'est Dieu qui décide. C'est ça, demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas ma vie, c'est Christ qui décide pour moi. Qu'est-ce que je dois faire, là où je dois prier, c'est Christ qui décide pour moi. c'est pas ma vie. Je suis Jésus. Verset 7.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Voilà, le fossé est comblé. Désormais, le papa peut s'occuper de nous librement parce que ce qui le gênait, c'était notre péché. Mais puisque Christ à la croix a pris nos péchés sur lui, eh bien, le Père peut maintenant répondre à toutes nos requêtes sans qu'il y ait un obstacle, sauf quand ça contredit son plan. C'est pourquoi le frère Jean complète dans 1 Jean 5, 14 à 15, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc il rajoute selon sa volonté. Et notre même Seigneur rajoute dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc que la volonté de Dieu, sauf quand ça contredit notre demande, contredit la volonté de Dieu, mais il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle entre nous et le Père. Verset 8.
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
Amen, amen. Le but, c'est que, après avoir écouté ce message, on se dit, je m'inquiétais pour rien, je m'embêtais pour rien, ma vie est prise en charge, parce que moi, je ne fais rien sans consulter Dieu, je ne fais rien sans consulter sa parole. J'aime Dieu et je crois, parce que c'est ça notre thème, je crois que Dieu m'aime. Si tu gardes ainsi la foi, tu es bien, tu sais que ta vie est prise en charge. Et nous voyons dans le verset 9, deux points importants, 9 à 10, il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Jésus dit « c'est l'amour qui compte. » Moi, je vous aime. Si vous croyez vraiment, c'est là qu'on revient toujours à la foi, si vous croyez que je vous aime, mais demeurez dans cette foi-là que je vous aime. Ne vous compliquez pas la tâche en pensant ceci, cela, je fais mal les choses, je fais ceci, je fais... Ne vous compliquez pas la tâche. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Voilà ce que Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc voilà, deuxième point. Gardez la parole du Seigneur. Garder la parole du Seigneur, c'est s'en servir. C'est ça, garder la parole du Seigneur. L'utiliser pour vivre sa vie chrétienne. Quand on demeure dans l'amour du Seigneur, on demeure dans sa parole, tout ça par la foi, parce que sans la foi, tu ne vas pas croire à l'amour de Dieu. Sans la foi, tu ne vas pas croire à la parole de Dieu. Donc, la foi te conduit à demeurer, à savoir que Dieu m'aime. Et l'apôtre Jean dit quoi dans 1 Jean 4, 19, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, Jésus dit, demeurez dans mon amour, donc croyez que je vous aime. Et vivez dans cet esprit-là, je vous aime. Donc si je vous aime, donc je veux votre bien. Et attachez-vous à ma parole. Vivez selon ma parole. Et tout sera pour vous. Ne vous inquiétez de rien, en quelque sorte. Mon Père, au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus veut qu'on porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ne forçons pas, comme si Dieu ne veut pas, et nous on doit forcer auprès de lui pour emporter. Non, demeurons à lui. Soyons son écoute. Écoutons ses instructions. Soyons à l'écoute de sa parole. Appliquons sa parole. Et bien sûr, acceptons qu'il nous aime. Quand on demeure dans ces choses-là, on est libre, on est libéré, on est en paix. Et tant qu'on est dans le train, on est dans le train. Bien aimé, quand vous êtes à la maison, quelqu'un vous dit, j'ai fini de faire la cuisine, j'ai fini de préparer. Est-ce que vous avez encore quelque chose à préparer? Lui dit qu'il a fini. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est dresser la table peut-être. Mais le repas est prêt, c'est fait. Et souvent même, il y en a quand ils disent que le repas est prêt, ça veut dire que la table aussi est dressée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à manger. Peut-être appeler les retardataires. C'est tout. Et conséquence, je suis dans la joie. Je viens trouver le repas prêt. Les œuvres préparées d'avance. Ça te fait la joie. Bien-aimé, notre tristesse, nos difficultés viennent de l'esprit de contrôle. À chaque fois que nous avons voulu contrôler notre salut, contrôler notre parcours, gérer tout ça, c'est ça qui amène les conflits, c'est ça qui amène les tiraillements, c'est ça qui amène la considération que les autres nous créent des problèmes. Non, bien-aimé, quand on sait que tout est accompli, on sait que c'est géré par Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit quoi à Pierre? Il a dit, Pierre, sur ce roc que tu viens de confesser, je, c'est qui? C'est Jésus. Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit à nous de bâtir son église. Il nous a demandé de prêcher la parole. Mais qui touche les cœurs, c'est lui. Nous avons notre part peut-être à mettre la table. Mais lui, il a déjà fini la cuisine. On n'a plus rien à faire pour le repas. C'est lui qui touche les cœurs. Lui te demande de prêcher la parole. Il te demande de former les disciples. Mais qui vraiment touche les cœurs? Qui va faire que ces gens-là t'écoutent? C'est lui. C'est le Saint-Esprit. On n'a pas à forcer. Et imiter le monde avec le système de coaching dans les entreprises, avec le système de vision d'entreprise. Voilà ma vision, tous mes collaborateurs doivent faire ceci. Non. Nous, on enseigne la parole. On forme les gens en leur enseignant la parole et par la vie active chrétienne. On les forme, mais qui les touche? C'est le Saint-Esprit. Bien, mais vous vous souvenez quand le Seigneur a dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il a dit? Formez-en? Non. Il a dit, priez le maître de la moisson d'en produire des ouvriers. Ça paraît contradictoire avec le fait de former des disciples. Non, c'est complémentaire. Ça veut tout simplement nous dire que nous avons un fonctionnement, une autre part à faire, mais le vrai travail est effectué par Dieu lui-même dans son tout est accompli. Il l'a déjà fait. Dans Éphésiens 2, 8 à 10, il a déjà fait, de sorte que ne croyons pas que c'est nous qui allons vraiment former les gens, former les disciples. Non, nous on va faire notre part, les enseigner, les amener dans certaines situations, travailler avec eux pour les former. Mais la vraie formation vient du Saint-Esprit qui utilise tout ce qu'on fait pour toucher leur cœur et les amener à nous écouter, déjà, nous amener à nous écouter, les amener à suivre nos pas. C'est lui qui fait le travail. C'est pourquoi d'un côté, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. De l'autre côté, il a dit, priez le Père afin qu'il produise des ouvriers dans sa maison. Seul, il peut le faire. Tout est accompli. C'est à nous tout simplement de garder la foi. Seigneur, je fais ma part, c'est toi qui toucheras les cœurs. C'est toi qui toucheras les cœurs. Quand Hudson Taylor est parti en Chine pour la mission, la première vague de missionnaires qu'il a eu, c'était compliqué, de soutien, de disciples qu'il a eu, c'était compliqué. C'était des gens qui restaient européens, qui refusaient de devenir comme des Chinois. C'était compliqué. Il a failli même arrêter. Il est parti prier. Et Dieu lui a envoyé une deuxième vague de disciples. Cette fois-ci, c'était des gens prêts à tout pour annoncer l'évangile. prêt à tout. Bien-aimé, c'est Dieu qui touche le cœur. Satan veut nous amener à contrôler l'œuvre de Dieu. Il veut nous amener à gérer. Or, il est dit là, tout est accompli. Tout a été préparé d'avance. Du moment que Jésus a recollé avec le Père, le fonctionnement de Genèse recommence. Donc l'homme est, à chaque fois, on te présente des choses qui sont déjà faites, on te demande de les pratiquer. C'est ça, bien-aimé. C'est ça qui, à la fin, il dit, c'est pour que vous ayez la joie, au verset 11, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite de savoir que mais tout est fait, c'est bien, c'est le Seigneur s'en est occupé. Donc, tu es dans la joie, bien-aimé. Tu sais que tout est sous contrôle. Ma part à moi, c'est quoi? C'est de garder la foi. Nous sommes des humains, donc du coup, quand nous nous affaiblissons en ayant l'impression que les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas, eh bien, notre recours, c'est quoi? C'est la prière. On prie afin que notre foi soit restaurée à nouveau. On prie en lisant la parole et afin que les promesses du Seigneur reviennent à nouveau à notre esprit, afin que les paroles du Seigneur reviennent à notre esprit à nouveau et ça nous rafraîchit et on continue la course et notre joie est parfaite. C'est ça. Gardez la foi. Gardez la foi. C'est ce que Dieu nous demande pour demeurer dans en lui, comme des branches collées au tronc et qui vont porter du fruit en abondance. Dieu veut que chacun de nous porte du fruit. C'est que nous-mêmes, on se complique. On veut faire les choses à notre manière. On ne veut pas accepter le cheminement du Seigneur. Comme si les choses échappent au Seigneur et nous, on veut faire. Non, ayons foi en Dieu. Nous lisons ça dans Marc 11, 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Marc 11, 22, 24.
Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. »
Amen. Il dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu, c'est ça notre thème. Gardons la foi, c'est ça qui va faire que nous demeurerions dans la parole et l'amour du Seigneur et nous produirons beaucoup de fruits. Ne nous laissons pas déstabiliser par ce que nous voyons. Ne nous laissons pas déstabiliser. Ayons foi en Dieu. C'est très important, bien-aimé. Nous allons lire un exemple qui montre dans Marc chapitre 2 la gloire du Seigneur. Marc chapitre 2. 1 à 12.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Amen. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous savez, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus savait qu'à lui, il allait à la croix, il allait les prendre. Donc, il a droit de les enlever de cet homme-là. Les gens ont voulu compliquer, dit, mais je vais vous démontrer que réellement, ses péchés sont pardonnés. Sa relation avec Dieu est recollée, est réparée. Et du coup, il peut bénéficier des belles œuvres préparées d'avance pour lui. Lève-toi et marche. Voilà l'œuvre qui a été préparée d'avance. Lève-toi et marche. La personne s'est levée à marcher. Bien-aimé, c'est cela. Les gens étaient dans l'étonnement. Bien-aimés, ce n'est pas loin toutes ces affaires, c'est près de nous, puisque le même Christ, c'est le même Christ aujourd'hui. Ce n'est pas loin. Il a tout accompli à la croix. Il a dit, j'ai fini. Maintenant, il n'y a plus de barrière entre vous et votre papa. C'est pourquoi dans Matthieu 6, il nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Dans Marc, il dit, dites mon Père. Dans Luc plutôt. Mon père, tu parles à ton papa. Toi, tu crois que ton papa peut te refuser une guérison? Toi, tu crois que ton papa peut te refuser que tu sauves les âmes? Il ne peut pas te refuser de belles choses comme ça. Notre père à nous, c'est d'avoir toujours la foi. Même quand les choses ne semblent pas fonctionner comme on a demandé au papa, puisque nous avons foi qu'il nous aime, puisque nous avons foi qu'il est tout puissant, nous devons continuer. C'est ce que Jésus dit dans Luc 18. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? C'est le problème, c'est la foi. Continuez à croire que Dieu est au contrôle, qu'il va faire de bonnes choses, même si ce n'est pas encore arrivé. Persévérez, gardez la foi, puisque lui, il a tout accompli déjà. C'est nous qui devons rester dans le train. Ne sortons pas. Ne prenons pas une correspondance. Restons dans le train. Pendant que tu es dans le train, à la radio, on te dit qu'il y a de nouveaux trains, de nouveaux moyens pour arriver là où tu vas. Il suffit d'aller dans telle gare et qui est sur ton chemin. Ne descends pas. Reste avec Christ. Fais la volonté de Dieu pour toi. Notre part à nous, c'est de prier. Prier pour être toujours dans la communion avec Dieu et connaître ainsi sa volonté pour nous, bien-aimés. Nous devons saisir ces choses-là. Vous savez, quand on saisit ces choses, on devient libre et en paix. Que tu prêches devant 1000 personnes ou devant 2 personnes, tu es toujours la même personne. Parce que tu considères que tout est une bonne œuvre préparée d'avance pour toi. Que tu parles dans un village ou bien dans une grande ville, tu es toujours la même personne. Parce que c'est le même Dieu, c'est les mêmes belles œuvres préparées d'avance. Tout est accompli. Alors moi, je n'ai qu'à faire ma petite part, qui est de dresser la table, de mettre une assiette ou d'appeler un retardataire. Et même tout cela est accompli. Même tout cela. Toutes ces œuvres-là. On prend quelques images pour nous aider, mais les images sont imparfaites, mais ça peut aider quand même. Vous savez, les apôtres avaient tellement grandi dans ça. Regardez, quand ils ont vécu toutes ces choses-là, Jésus, il est écrit, Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, c'est la foi qui compte. Gardons la foi en l'amour et en la parole de Dieu. Gardons la foi en ça. Et fonctionnons avec ça. Satan va nous pousser à désobéir à la parole, à nous énerver, à attaquer les humains. N'attaquons personne. Suivons Dieu. Même dans le monde, on dit les chiens aboient, la caravane passe. Si tu écoutes les aboiements, tu vas trembler et tu vas traîner. Non, toi, suis le train. Reste dans le train. Reste dans la caravane qui continue à partir. Suis Dieu. N'entre pas dans les polémiques humaines. Tu vas perdre ton temps. Suis Dieu. Combien de temps les gens perdent dans les polémiques humaines? N'entre pas dans cela. Vous savez, si je vous disais des versets, il y en a tellement. Jésus lui-même dit ceci. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a déjà ses brebis, il les connaît. Ça ne se force pas. Il dit que ses brebis vont reconnaître sa voix. On ne nous demande pas de forcer les gens, d'annoncer la parole. Et pourquoi nous étonner que quelqu'un qui semblait être une brebis prenne une autre route? C'est dit. Tout ça est dit dans la parole. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Si quelqu'un prend une autre route, ce n'était pas la brebis du Seigneur. Donc quand Dieu nous montre les choses, pourquoi nous étonner? Continuons notre route. Le Seigneur dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. C'est tout, bien-aimé. Tout est accompli, tout est fait. Nous, on ne vit que la manifestation de ce qui a été fait. Non pas que notre rôle soit inutile, pas du tout. Notre rôle est utile pour autant que nous obéissons à celui qui a tout accompli. Pour autant que nous restons dans le train, notre rôle est utile parce que ça fait partie de ce tout est accompli-là. Notre obéissance à la parole de Dieu est utile. Notre obéissance à l'Esprit de Dieu est utile. Lisons dans Actes des Apôtres 13, 48. Les disciples avaient grandi dans cet exercice-là, cette science-là, cette connaissance du fait que tout est accompli, que leur part, ce n'est pas eux qui avaient la part déterminante. La part déterminante, Dieu l'avait déjà fait à la croix. Quand Jésus a dit « c'est fini », il avait vraiment fini les choses. Vous allez dire « alors à quoi ça sert ce qu'on fait ?» Ben, ça sert parce que ça fait partie de ces choses-là qu'il avait fini. Mais en soi, ce n'est pas ça qui est capital, c'est lui qui a fait. De sorte que notre joie est parfaite parce qu'on se dit « les choses ne reposent pas sur moi, ça repose sur Jésus. Jésus les a accomplies. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ? Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on doit dire ? Oh Seigneur, aide-moi à rester dans ton plan. Oh Seigneur, aide-moi à prier, aide-moi à garder la foi, aide-moi à continuer à avancer, à fonctionner avec toi. » Au fait, le problème c'est quoi ? C'est que ça doit maintenant s'accomplir en toi. Et c'est là que tu as le choix. C'est là que tu as le choix. C'est comme si tu avais une voiture et Dieu veut l'utiliser pour aller à Paris. On est pour envoyer quelqu'un à Paris. On est lundi, mais la personne doit arriver le mercredi. Toi, tu peux faire le... Mais le Seigneur voulait bénir ta voiture, en fait. Mais toi, tu résistes. Lundi, tu résistes. Mardi, tu résistes. Mais les gens vont dire, mais pasteur, si le mardi, la personne a toujours résisté, et le mercredi encore, la personne doit arriver à Paris à 15h, jusqu'à 14h, le monsieur qui a la voiture a résisté. Donc le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Non, Dieu peut sortir un hélicoptère. Mais c'est le monsieur de l'hélicoptère qui sera béni. Le plan de Dieu s'accomplit à travers lui. Le plan de Dieu s'accomplira toujours. Peut-être pas par toi, parce que toi tu as résisté. Mais toi tu ne freineras pas le plan de Dieu. On se trompe, bien-aimé. On se trompe. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous avons le plan de Dieu sur notre vie et qu'il y a un grain de sable, ce n'est pas un grain de sable qui va arrêter Dieu. Le plan de Dieu, on a dit ça à Esther. Esther, est-ce que tu peux aller voir le roi pour le supplier de ne pas tuer, nous, tes frères, les juifs? Esther a dit, mais vous ne savez pas le risque que vous me faites prendre. On peut me tuer. Sous-entendu, je ne peux pas le faire. C'est vouloir me faire tuer. Et Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mardoché a fait parvenir à Esther le message suivant. Esther, toi tu étais orpheline. C'est moi qui t'ai élevée. Aujourd'hui tu te retrouves reine. Tu ne m'écoutes plus puisque tu veux sauver ta vie. Je te le dis. Israël, Dieu le sauvera même par un autre moyen. Mais toi Esther, tu ne peux pas garantir que ton avenir sera en sécurité. Ta vie aussi peut être éliminée. Esther a compris. Mardoché l'a fini en lui disant, est-ce que ce n'est pas pour nous sauver que peut-être Dieu t'a fait reine? Esther s'est dit, c'est vrai. Je ne mérite pas d'être reine. Je suis une orpheline étrangère de surcroît. Certainement, c'est vrai. C'était pour sauver les Juifs. Alors, je prends le risque. Amen. Quand on discerne le plan de Dieu, on dit, bon, j'y vais. C'est Dieu qui veut les choses ainsi. Tout est accompli. S'il faut que je meure, voilà ce qu'Esther dit. S'il faut que je meure, je mourrai. Mais ça fait partie du plan de Dieu. C'est mieux être dans le plan de Dieu qu'en dehors. S'il faut que je meure, je mourrai. C'est comme ça, bien-aimé. Le vrai chrétien, il se dit, je préfère la ligne de Dieu, le plan de Dieu. S'il faut que je meure, je mourrai. C'est cela. Et nous lisons Actes 13, 48.
Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
Voilà, bien-aimés. Les apôtres, ils prêchent. Les païens écoutent. Donc c'est Paul et Barnabas. Ils prêchent. Les gens écoutent. Ils sont touchés. Mais ça se clôture par quoi ? Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Les apôtres avaient compris que ce ne sont pas leurs prédications qui étaient déterminantes. C'est que ce n'était pas ça qui était déterminant. C'était le tout est accompli de la croix. Qui a déjà sauvé les gens. Et nous, quand on prêche, c'est là que nous vivons cela. Mais lui, il les a déjà eus à la croix quand il a crié, tout est accompli. Il les a déjà sauvés. Mais nous, les humains, nous le verrons en notre temps à nous. Mais lui, il les a déjà vus. C'est pourquoi ils disent, ceux qui étaient destinés, tous ceux qui avaient été déjà touchés par Dieu, il y a à la croix, mais nous voyons la manifestation de ça désormais. Mais ce n'est pas nous qui produisons le salut dans le cœur des gens. C'est Dieu qui produit cela. Et il a produit ça où tout est accompli. Et nous vivons cela lorsque nous prêchons l'évangile. C'est comme si quand nous prêchons l'évangile, eux, ils reconnaissent l'image qu'ils ont dans leur cœur quand nous prêchons. Voilà. C'est comme s'ils avaient déjà reçu ça. Et quand nous prêchons, ils disent, mais c'est ça. C'est ça qui a toujours eu en moi, en quelque sorte. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais comprenons que tout est accompli, frères et sœurs. Tout est accompli. Nous devons avoir cette assurance-là. Que tant qu'on est, on demeure en Christ, dans la foi et l'amour, les choses sont construites pour nous. Que ce soit négatif, que ce soit positif, tout est construit pour nous et nous verrons la gloire de Dieu. C'est ça la vérité, bien-aimés. Sinon, comment expliquer que les chrétiens qui sont dans la persécution sont toujours dans la joie aussi? Parce qu'ils savent que tout ça, ça fait partie du travail de Dieu. Car tout est accompli à la croix. En Chine, il y a des chrétiens qui ont vu des portes de prison s'ouvrir. Le frère Yun a vu le porte de prison s'ouvrir devant lui. Il est sorti de la prison comme Pierre. Parce que c'est des gens qui ont mis leur foi en Dieu, qui n'ont pas regardé aux circonstances. qui n'ont pas regardé aux difficultés, ils ont regardé à Dieu. Tout est accompli. Ce n'est pas les humains qui freineront le plan de Dieu, c'est toi-même qui freineras le plan de Dieu pour ta vie, mais pas le plan de Dieu pour son Église. Parce que Dieu se trouvera d'autres personnes qui accompliront cela. Tu dois être attentif pour toi-même. Attentif pour toi-même. C'est ça, bien-aimé. Le tout accompli, c'est ça qui a fait élever ce paralytique. C'est fait. Il n'y a plus de difficultés. Et ça, ça va nous pousser à quoi? À prier sans cesse. Oh Seigneur, tu as accompli tout cela à la croix. Nous voulons nous voir cela. Nous voulons nous vivre cela. Ça va nous pousser à quoi? À la louange. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous apprend que tout est accompli afin que notre joie soit parfaite, notre joie soit grande, afin que notre paix soit totale dans l'exécution des missions que tu nous confies. Seigneur, tu nous as montré l'exemple par tes apôtres qu'ils avaient compris que tout était accompli, qu'ils avaient leur part, mais ceux qui étaient destinés à la vie éternelle étaient sauvés par toi, Seigneur. Aide-nous à ne plus nous agiter dans notre fonctionnement, à ne plus nous compliquer, mais à te faire confiance, que nous gardions la foi jusqu'au bout et nous verrons tes exploits. C'est ainsi que notre frère Paul, à la fin de sa vie, a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Que nous gardions la foi en ta parole et en ton amour jusqu'au bout par ta grâce. Merci Père encore pour tout. Nous te confions la suite de cette journée. Conduis-nous, Papa, en esprit, en vérité. Amène-nous à prier sans cesse pour vivre ton plan et être en communion avec toi pour pouvoir écouter tes instructions. Au nom de Jésus. Amen.